Bonjour. Nous allons ce matin traiter d'un sujet très particulier et pourtant je trouve qu'il est très en lien avec beaucoup de choses que Paul vient de nous donner dans la première partie du culte. Nous allons commencer par une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 16 à 23. Évangile de Luc chapitre 14, à partir du verset 16 et jusqu'à 23. Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son esclave dire aux invités, « Venez, c'est prêt. » Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les examiner, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et je ne peux pas venir. » L'esclave de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison en colère dit à son esclave, « Va vite dans les grandes rues de la ville comme dans les petites et amène-moi ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » L'esclave dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit alors à l'esclave, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. » Ce même récit rapporté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, apporte cette précision. Les esclaves ramenèrent tout ce qu'ils trouvèrent de points mauvais et bons. C'est une banalité de le dire, mais il arrive parfois que les sujets choisis par les prédicateurs fassent plutôt consensus. Et après tout, pourquoi pas? Cependant, il y a un risque, c'est qu'à vouloir être trop consensuel, l'orateur finisse parfois par jouer aux confins de la démagogie. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet qui ne fait pas consensus, et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons parler des différents et des différentes. Et pour nous conduire vers eux, nous allons, tenez-vous bien, aborder le thème des eunuques. Si, vous avez très bien entendu. Les eunuques. Ils ne constitueront pas le sujet de notre étude, mais simplement le moyen pour aborder, pour essayer d'appréhender ces différents qui vont nous intéresser. Dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 12, Jésus dit, « Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par le fait des gens, c'est-à-dire par le fait d'autrui. » Il parle d'une troisième catégorie qui déborde sur un sujet que nous n'aborderons pas. De nos jours, il n'y a guère que dans la caste des intouchables en Inde que l'on trouve encore des eunuques, même si ça et là dans le monde, on peut en trouver encore. Mais avant d'aller plus loin, déjà se pose une question, tout de même. Il n'est pas dans les usages de nos assemblées qu'un tel sujet soit abordé, surtout dans le cadre d'un culte. Alors pourquoi aujourd'hui ? Au moins pour deux raisons. La première, c'est que le thème des eunuques est abordé dans la parole de Dieu aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament et toujours de façon extrêmement directe, sans le moindre tabou. La deuxième, c'est que dans le cadre professionnel qui est le mien, j'ai fréquenté et je fréquente encore bien des personnes que la vie d'emblée a placées à la marge ou a mis en différence. Et cela sans que jamais il n'ait souhaité ou désiré être mis dans ce cadre-là. Pour employer l'expression du Christ, il ou elle l'ont été du fait d'autrui. Tels les eunuques de l'Antiquité, il leur faut subir le même type de regard, de jugement ou d'a priori monolithique. Alors, il existe beaucoup, bien de sortes de différences. Nous allons essayer de rester dans quelque chose de général. Mais les individus dont je vous parle sont des personnes qui ont subi des maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles, qui les ont blessés et laissés pour le restant de leur vie sur le bord du chemin, exactement, très exactement, comme dans la parabole du bon samaritain. Il se trouve que notre Église dispose d'un site internet sur lequel l'accès aux prédications et aux sermons est extrêmement facile. À mon très grand étonnement, certains artistes de ma connaissance ou certains anciens étudiants ont trouvé ce site. Et après avoir écouté telle ou telle prédication, il arrive qu'ils prennent contact avec moi pour me poser toutes sortes de questions et s'en suivent des débats qui, je l'avoue, bien souvent me mettent dans un extrême embarras. Aujourd'hui, c'est très particulièrement à eux, à elles, auditrices ou auditeurs anonymes, que ce message est dédié. C'est prioritairement à eux que je m'adresse. Mais avant d'en arriver aux références bibliques qui vont étayer notre propos, je trouve qu'il est intéressant de se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un eunuque et quelle était la place qu'ils occupaient dans la société? Nous savons tous qu'il s'agissait d'hommes castrés, mais encore. Il se trouve que l'émasculation inhibait totalement l'expression des hormones et que cela correspondait au profil parfait pour faire de ces gens-là des employés de harem. On les employait dans des harems et le chapitre 2 du livre d'Esther donne des précisions intéressantes à ce sujet. Cependant, la fonction des eunuques ne se résumait pas à cette seule charge. Ils occupaient aussi des postes de hauts fonctionnaires dans ceux qui aujourd'hui pourraient correspondre à certains de nos ministères ou de nos grandes administrations. D'autres encore étaient en charge, en responsabilité, de la gestion du trésor royal ou des services de bouche du roi, c'est-à-dire de tous les mets, de tous les plats et de toutes les boissons qui étaient servis sur les tables royales. Ça, c'était pour l'Antiquité. Plus près de nous, à l'époque baroque, c'est-à-dire à peu près au XVIIe-XVIIIe siècle, partout en Europe, sauf en France, la castration de garçons de 8 ou 9 ans s'est pratiquée de manière quasi industrielle. Songez que Naples était devenue la ville où s'exerçait cette spécificité et que pour la seule Italie, les historiens avancent le chiffre exorbitant de 4000 petits garçons par an. 4000 victimes par le fait d'autrui, par le fait des gens. Et le pire, restait que c'était les parents qui fournissaient cette innocente marchandise. Pourquoi le faisaient-ils? Parce que leur misère était telle qu'ils avaient, en amenant comme ça leurs enfants, l'assurance que ces petits seraient pris en charge dans des établissements spécialisés qui leur accorderait une bonne nourriture, une bonne éducation et surtout un enseignement musical et particulièrement vocal de très très haut niveau. À cette époque, et même avant, le Vatican avait imposé son veto sur le fait qu'aucune femme ne devait être présente dans le cadre de ces murs et par conséquent ne pouvait pas participer au choral. Les chœurs qui assistaient ou qui nourrissaient les offices de la chapelle Sixtine ne pouvaient avoir leur voix soprano, les voix aiguës, que fournies par des voix non féminines. Et ce phénomène a fait tache d'huile, s'est répandu dans toutes les paroisses, et chaque paroisse voulait avoir son chœur avec des castrats chantant, en même temps que l'aristocratie devenait très friande de ces voix extraordinaires dans le cadre de la musique profane, comme l'opéra par exemple. Reste que le choix de ses pauvres parents était un pur jeu de hasard. En effet, les meilleurs élèves, les plus doués, devenaient des solistes hyperstarisés. On n'a plus idée aujourd'hui du succès qu'avaient ces gens-là. Les moyens, au mieux, devenaient choristes. Quant aux autres, c'est-à-dire l'écrasante majorité, ils allaient grossir les rangs de la prostitution. Une vie, si on peut encore appeler ça comme ça, d'emblée mis à la marge par le fait d'autrui. Pour clore ce large survol, nous dirons que les castrats représentaient une population à part, parfois tolérée, la plupart du temps exclue. Cependant, une chose est certaine, c'est que tous étaient des sujets universels de moqueries, de blagues graveleuses et de mépris général. Rien aux yeux de tout un chacun n'était plus ridicule et plus risible qu'un eunuque ou qu'un castrat. Si c'est différent que furent les eunuques ont depuis très longtemps disparu de nos sociétés occidentales, le principe de discrimination, lui, n'a pas pris une ride. Il s'applique aujourd'hui avec la même férocité sur les non-conformes, sur celles et ceux qu'avec beaucoup d'a priori nous considérons comme nos différents contemporains. Il est temps à présent d'en venir à la parole de Dieu, et voici en résumé l'essentiel d'un texte du livre des Actes au chapitre 8. C'est un condensé. Un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Va sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » Philippe accourut. L'Esprit lui dit, « Avance et rejoins ce char. » Le passage que lisait l'eunuque était celui-ci. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant celui qui la tond, dont son abaissement, son droit, lui a été enlevé. Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne me guide ?» Et il invita Philippe à monter avec lui. Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Nous allons dans un instant revenir à ce passage. Faire le choix de Christ et lui appartenir lorsqu'on est né dans un milieu chrétien et que l'on y a grandi semble obéir à quelque chose finalement d'assez naturel. Sans doute parce que depuis toujours on en maîtrise les codes, le vocabulaire, les postures, on évolue dans ce milieu comme si les choses allaient de soi, comme si, de droit, notre présence s'inscrivait dans une sorte de cohérence bétonnée. Au fond, Nous nous trouvons là comme des citoyens légitimes, que dis-je, des élus indéboulonnables de la cité chrétienne. Alors, connaissant tous ce panneau, vous savez, de la circulation, accès interdit, sauf aux ayants droit. Quid de ceux et celles du dehors, des hors les murs. Matthieu 9, versets 10 à 13. Comme il était à table, beaucoup de collecteurs de taxes et de pêcheurs étaient venus prendre place avec Jésus. Les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec eux ?» Jésus, ayant entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Jésus a fréquenté tout le monde, sans distinction. Il a fréquenté quiconque. Certes, des maîtres de la loi, des pharisiens et des scribes, mais aussi des publicains, des pécheurs, des prostituées, des démoniaques, des malades, des lépreux, des estropiés, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets, des collabos, des abîmés, des égarés et des paumés de toutes sortes. Bref, l'exacte population qui a tendance à me rebuter et à me faire fuir. Pour ne pas commettre d'impair diplomatique, souffrez que je m'exprime à la première personne du singulier. Je suis, moi qui vous parle, l'exemple personnifié de ceux qui ne souhaitent pas s'entourer de ces différents-là. Mon éducation, mon éthique, ma soi-disant moralité me poussent à les fuir. Heureusement pour eux, je ne suis pas le Christ. Là où moi, petit pharisien lambda, je commence par juger, me méfier et condamner, Christ, lui, commence par l'accueil, la compassion et l'amour. Nous proclamons à longueur de culte et en particulier de moments de louange que Jésus-Christ est vivant. Nous faisons bien, puisque c'est vrai. Mais alors pourquoi, moi qui vous parle, pourquoi me comporterais-je comme si ce Christ vivant ne devait plus aujourd'hui accueillir et avoir compassion de quiconque se présente à lui ? De quiconque se présente à lui, avec chevillé au cœur, un désir impérieux de changement. Parce que sa différence est désormais une charge et une fatigue de tous les moments. En janvier dernier, après avoir hésité, j'ai fini par regarder un documentaire télévisé intitulé « La disgrâce ». Peut-être certains parmi vous l'ont vu. 5 ou 6 personnes ayant un visage monstrueux, totalement défiguré, témoignait face à la caméra. Ce fut un moment bouleversant. Chacun avec intelligence, finesse et une impressionnante dignité racontait la souffrance d'avoir à affronter le regard d'autrui au quotidien. Tous ont dit la charge de leur différence. Tous ont dit en être fatigués. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans le premier cantique que nous avons chanté, ce « vous tous » est revenu comme un leitmotiv. Vous tous, c'est quiconque. Une idée reçue, particulièrement tenace, très enracinée, voudrait que, de facto, nos églises constituent un milieu totalement aseptisé et exempte de personnes différentes. Dans nos rangs, oh, c'est une certitude. Pas de nature ou d'ancienne nature addictive, violente, jalouse, perverse, déviante, névrosée ou paranoïaque. Quelle blague! Quelle arnaque! La vérité est que souvent, nous condamnons chez l'autre ce qui se voit, sans considérer la cause et le pourquoi de cette différence. Et au fond, qui sait si en stigmatisant ainsi l'autre, je ne condamne pas chez elle ou chez lui l'émergence de mes propres noirceurs. Matthieu, chapitre 7, verset 1. C'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et plus loin, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, les collecteurs de taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Toujours Jésus ajoute dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 27, il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais Nathan le Syrien, le différent. N'y avait-il pas d'autre priorité pour Philippe que d'aller à la rencontre d'un eunuque, c'est-à-dire d'un différent, perché sur un char en plein désert? Actes chapitre 8, verset 28. Un eunuque éthiopien s'en revenait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. Usé de sa voix pour lire, pour dire ou pour chanter, c'est s'installer dans un univers vibratoire. User de sa voix, c'est émettre des vibrations pour donner vie et pour mettre en vie. Ainsi, l'eunuque met en vibration un passage du prophète Ésaïe. En le lisant à haute voix, il s'approprie un texte christocentré, c'est-à-dire construit et organisé autour de la seule personne du Christ. À l'évidence, les mots bouleversants qui parlent du Fils de Dieu sont comme récupérés à titre personnel par cet Éthiopien. Mais enfin, que dit ce prophète Ésaïe à propos du Christ pour que ce haut fonctionnaire soit à ce point troublé ? Ésaïe 53, méprisé, semblable à celui dont on se détourne, maltraité, affligé, semblable à une brebis muette devant celui qui la tond, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu. L'eunuque lit à haute voix. Voilà notre lecteur perplexe devant un portrait dans lequel il se reconnaît. L'effet miroir fonctionne. C'est comme si l'image qu'il avait de lui-même se substituait à celle de cette description. En réalité, tout se passe comme si le Fils de Dieu avait consenti à prendre sa place dans le rang des bannis, dans le rang des différents exclus. Il y a un écho vibratoire il y a comme une mise en résonance entre ce Christ victimisé et lui, le différent. Et son trouble est extrême parce que non seulement il se voit lui-même, mais en même temps, il est dans l'incapacité d'interpréter ce transfert. « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui demande Philippe. « Comment le pourrais-je ? » répondit l'Éthiopien différent. « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Personne. Verset 3. Il invita Philippe à monter avec lui. « Et moi, suis-je prêt à aller à la rencontre de l'autre, dans son désert ? Suis-je prêt à monter sur le char de celui que personne ne guide ?» Verset 35. Alors, Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe prit la parole. À haute voix, Philippe se met en résonance avec ce différent, en commençant par ce qui lui pose question. Il commence par cette écriture, nous dit le texte. Ce n'est qu'après avoir traité cette priorité-là, c'est-à-dire la priorité de l'autre, qu'ensuite il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Cette parole vivante, cette parole vibrante qui met en résonance deux personnes porte un nom. Ça s'appelle le dialogue. Cher auditeur, chère auditrice anonyme qui te tient près de ton ordinateur ou de ton smartphone, tout comme toi, dans cette salle ou ailleurs, si tu te sens concerné, sache qu'une seule chose compte, une, c'est que tu entendes la bonne nouvelle de Jésus. Dans la suite de l'histoire, nous voyons que le différent éthiopien vient d'être légitimé. Par pure grâce, il vient d'être rendu éligible à la conformité. Au regard de Jésus, rien désormais ne va le distinguer ou le différencier des autres. Plus de mise à la marge, plus d'exclusion. Fini le poids mortifère de la différence. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que cette personne vient d'être comptée au nombre des enfants légitimes de Dieu. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette histoire que nous venons de lire, c'est qu'il n'est nulle part fait mention d'émotion ou de ressenti. Il faut attendre le verset 40, c'est-à-dire vers la fin, pour lire enfin ceci. L'eunuque poursuivit son chemin tout joyeux. L'action du Christ dans la vie de celui qui croit se définit aussi par la joie du salut. Autre élément de la bonne nouvelle, c'est que l'histoire de ces différents peut être dupliquée sans limite. Elle peut s'appliquer à quiconque croit. Auditeur invisible, connu ou inconnu, es-tu, oui ou non, un appétit de changement ? As-tu faim et soif d'autre chose que de l'esclavage de ta différence ? Jésus, le Fils du Dieu vivant, se tient aujourd'hui à ta porte. Et si tu l'entrebâillais, cette porte, comme ça, juste pour voir, tu apercevrais alors quelqu'un qui se présente devant toi pour te guider. Elle consiste en ça, la bonne nouvelle. Enfin, voici venu quelqu'un qui s'inquiète de ton errance, de ton manque ou de ta perte de repère. Il entend tes souffrances, il les considère, il veut guérir les blessures que t'infligent les autres, tout comme celles que tu t'infliges à toi-même. N'as-tu pas envie qu'il entre dans ton cœur pour dialoguer avec toi, en commençant par ce qui te préoccupe maintenant, par ce qui te préoccupe aujourd'hui? Quelques mots pour terminer. Il y a dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, un texte assez inattendu et étonnant parce que Dieu s'adresse directement aux seuls eunuques. Voici ce qu'il leur dit dans Ésaïe, chapitre 55, au verset 3 à 5. « Que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec », car voici ce que dit le Seigneur. Aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce à quoi je prends plaisir et qui demeurent fermes dans mon alliance, écoutez bien, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument, un nom meilleur que des fils et des filles, je leur donnerai un nom pour toujours et il ne sera jamais retranché. » Trois verbes sont à retenir. Choisir, observer, demeurer. Choisir la bonne nouvelle de Jésus pour avoir un nom et un monument en présence de Dieu. Observer, observer les commandements du Seigneur et les mettre en pratique. Et enfin, demeurer dans son amour. Courage, l'ami, lève-toi. Entends-tu? C'est Jésus qui t'appelle.